Bonsoir, Aude Lavigne, on vous retrouve lundi pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous.
La dispute. Ce soir, la littérature.
Ce soir, Elisabeth Franck-Dumas et Philippe Chevillé se font face à notre affiche 10h04 de Ben Lerner aux éditions de l'Olivier et brève histoire de 7 meurtres de Marlon James chez Albin Michel. Nous évoquerons aussi plus rapidement Tabou de Ferdinand von Schirach chez Gallimard, L'État où nous sommes, nouvelle humaine d'Anne Beattie chez Christian Bourgois. Alors deux livres américains donc pour cette journée spéciale États-Unis sur France Culture et d'Amérique, il sera question aussi même depuis la Jamaïque. Au cours de cette émission, comme chaque soir désormais, Lucille Como nous invitera à entrer dans son petit salon, ce sera vers 21h20. Des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute, ce soir des DVD du documentaire Détenu de Marie Drucker distribué par Z. Une émission au parfum américain, donc ce soir, de livres venus d'outre-Atlantique. Pour cette journée spéciale États-Unis sur France Culture, nous ouvrons la dispute avec Ben Lerner, qui publie 10h04 aux éditions de l'Olivier, dans une traduction de Yakuta Alikavazovitch. Nous avions parlé ici même de Ben Lerner il y a 2 ans pour son premier roman, au départ d'Atocha, qui a rencontré un beau succès. Qu'allait-il en être du second? C'est un des points de départ, pourrait-on dire, de ce livre qui met en scène un certain Ben, trentenaire, vivant à Brooklyn, qui a écrit un premier roman très remarqué et qui s'inquiète de l'écriture du second. La BO de retour vers le futur, puisque le titre du livre renvoie à l'heure à laquelle la foudre frappe l'horloge du tribunal qui permet à Marty McFly de rentrer en 1985. Bon, ceux qui ont vu le film comprennent ce que je suis en train de dire. Les autres pourront faire une séance de rattrapage dans ce livre de Ben Lerner, parce qu'il en parle beaucoup de retour vers le futur, Elisabeth Franck-Dumas.
Oui, il en parle beaucoup. Il parle beaucoup de choses. Il est assez bavard, Ben Lerner. Et je retrouve, c'est un livre, on avait parlé, je crois que c'était même moi qui vous l'avais proposé, du départ d'Atocha.
Absolument.
Il y a 2 ans. Là, on retrouve un narrateur qui lui ressemble encore plus que celui du départ d'Atocha, qui était déjà assez singulièrement ressemblant, un espèce de Hemingway au petit pied en résidence littéraire en Espagne, et très drôle et très... Et là, donc, on retrouve ce narrateur qui s'appelle Ben, poète, qui vient de recevoir un énorme avaloir pour un roman qui lui reste à écrire. Sa meilleure amie aimerait un enfant de lui.
Sans relation sexuelle.
Voilà, ce qui donne lieu à des scènes hilarantes lorsqu'il doit se masturber dans un gobelet dans un hôpital new-yorkais. On lui pose également un diagnostic d'une maladie potentiellement très grave.
Il risque la rupture d'anévrisme.
Il y a des tempêtes. Il y aura 2 tempêtes monumentales qui s'abattront sur New York. Il se passe plein de choses, mais en fait, c'est pas ça, finalement, qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que ce livre remet en jeu la question de l'écriture de la fiction. En gros, il essaye de répondre, il pose la question, d'ailleurs, il y répond pas toujours, ou pas toujours suffisamment, de manière extrêmement convaincante, mais ce n'est pas grave, parce que ça donne lieu à des pages magnifiques. Pourquoi écrire de la fiction aujourd'hui? C'est la question que se pose le narrateur. Alors, il y a une réponse évidente qui est donnée à la page 2, qui est, quand on a reçu un avaloir à 6 chiffres, voilà. Mais ça, c'est pas suffisant quand on est travaillé par des doutes
beaucoup
gigantesques.
Beaucoup aimeraient avoir cette réponse, hein.
Voilà. Comme, non, mais exactement. Alors là, il pose ça d'entrée de jeu à la deuxième page du livre, mais c'est pas suffisant pour quelqu'un comme Ben Lerner qui se pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'on écrirait de la fiction quand finalement tout ce qui se passe autour de soi est suffisamment palpitant pour ne pas avoir à le faire? Pourquoi écrire de la fiction quand on est poète et que, je dirais que les relations entre faits et fiction ce rapport-là n'est finalement pas mis en jeu par la poésie et c'est bien plus confortable, ou en tout cas Ben Lerner trouve ça bien plus confortable. Et puis, pourquoi écrire aussi quand on est un New-Yorkais gâté, un peu névrosé, qui se pose plein de questions, hyper culpabilisé? Il y a une espèce d'impossibilité à écrire et d'impossibilité à agir qui se répondent comme ça, qui sont assez croustillantes. Et donc, la première réponse, qui est celle de l'argent ne suffit pas, même si j'ai trouvé ça assez jouissif de voir tout ce que cet argent permet au cours du livre. On a assez rarement l'occasion de croiser des écrivains Superman qui reçoivent un avaloir à 6 chiffres et qui peuvent comme ça régler les problèmes de leurs amis avec tout cet argent qu'ils ont reçu. Au lieu de ça, il va tourner en rond autour de cette question de fiction. Est-ce que c'est écrire des mondes à venir? Et c'est là qu'intervient Retour vers le futur et 10h04. Je vois plus ça d'ailleurs. Je pense qu'il y a une relation graphique aussi. Il est poète, il y a une relation en miroir comme ça dans le titre, plus que cette heure-là qui est importante. Ça donne des pages magnifiques de promenades dans New York ou au Texas, de questionnements autour de l'écriture qui, je trouve, donnent le portrait d'un écrivain contemporain et d'une jeunesse, plus si jeune d'ailleurs, new-yorkaise, un petit peu dépassée par ce qui lui arrive, par les possibilités qui lui sont offertes et les défis de l'époque. Et un très très beau tableau de cette situation et des rapports entre l'individuel et le collectif. Pardon, je vais laisser Philippe Chevillier parler. Mais je trouve que je ne sais pas si c'est un roman accompli, classique. C'est peut-être un questionnement d'ailleurs qui nous semble naïf à nous les Français pratiquant d'autofiction. Là-bas, c'est une question qui est beaucoup plus sacrilège, mais c'est un très beau livre.
Bien, je reviendrai vers vous, Elisabeth. Philippe Chevillier, sur ce 10h04 de Ben Lerner.
Alors moi, au départ, j'ai eu un petit peu peur justement de l'autofiction et de l'autofiction qui serait pas passionnante, parce que les personnages au début, je les sentais pas forcément, sa meilleure amie, Alex, etc. Ouais. Je me suis dit, oulala, dans quoi va-t-il nous embarquer? Ça va justement tourner en rond pour tourner en rond. Et puis petit à petit, j'étais pris par la musique. Alors la musique des mots, parce que c'est quand même un poète, alors il écrit bien et ouais, bien traduit. Par le charme des personnages, parce que finalement, ils se révèlent petit à petit. Et ça peut être même des personnages secondaires, comme le petit Roberto, le petit latino dont il s'occupe. Il y a plein de personnages comme ça qui s'imposent. Et puis évidemment, quand tout d'un coup on comprend cette mécanique du jeu de la fiction, de cet avaloir, de cet agent qui lui demande d'écrire d'après une nouvelle, donc on va découvrir la nouvelle, on va découvrir que la fiction qu'il invente est très proche du réel, mais au fond, le réel, est-ce que c'est vraiment du réel? Parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il raconte au départ, la première histoire, si elle est vraie ou pas. Donc cette espèce de jeu de miroir est assez étonnant et m'a beaucoup plu. Et puis moi, ce qui m'a après vraiment touché, c'est la dérive. C'est au Texas, à la frontière mexicaine, où tout d'un coup il se retrouve la nuit à errer dans la ville déserte, à regarder dans un musée des œuvres, à se retrouver à des parties où on prend des stupéfiants. Le livre devient extrêmement libre à ce moment-là. Et puis ces petits flashs poétiques qui sont juste une description de New York la nuit vue de Brooklyn, encore une fois des ciels du Texas. Et mi-bout à bout, tout ça crée une espèce d'almanach, parce qu'il y a plein de choses. Il y a des poèmes, il y a des réflexions, il y a un peu de la philosophie, il y a le métier d'écrivain, il y a une espèce d'almanach organique qu'on aime lire comme un journal, comme ça, qui est très plaisant à lire. Et j'aime bien cette capacité de l'écrivain à montrer comment il peut se réinventer à partir de rien, avec un petit côté escroc. Je trouve que le mot le plus amusant de l'agent, c'est de dire finalement c'est pas le roman qui compte, c'est le synopsis. Et donc c'est un livre qui m'a Du coup, sur la durée, beaucoup, beaucoup touché. Je trouve ça un très beau livre aussi, comme Elisabeth.
Mais c'est vrai que dans le côté almanach, il y a aussi des photos qui ont leur importance, des images de différentes natures. On va pas tout déflorer ici. C'est vrai que pour moi, au départ, j'ai eu un sentiment un peu curieux parce que je prenais pas grand plaisir à lire ce livre au début et en même temps, j'arrivais pas à lâcher ces personnages-là. J'avais l'impression, alors pour le coup, ce serait une fiction d'être dans un bon film de Noah Baumbach. Mais si ça pouvait exister. Mais ensuite, c'est vrai que cette construction, parce qu'il y a énormément de faits, d'anecdotes, de souvenirs, de digressions, qui ont quand même pour point commun de tourner autour du nombril du personnage et ce dont il joue lui-même, puisqu'il y a tout un certain passage où il est présenté comme l'auteur, enfin, où il fait cette distanciation assez drôle, en fait. Et il y a au cœur du livre, alors s'il n'y avait pas la réponse à la page 2, il y en a peut-être une à la page 123, puisque au cœur du livre, et la rentrée littéraire est décidément friande de navettes spatiales américaines. Christine Montalbetti, on en parlera peut-être, mais là, c'est autour de la navette Challenger qui a explosé au bout de 73 secondes après sa mise à feu, si l'on peut dire. Je vais faire cette petite lecture où il écrit Ben Lerner. C'est toujours une rétroprojection dans le passé, l'idée qu'il y aurait eu un moment précis où l'on a décidé de devenir écrivain, ou l'idée qu'un écrivain est capable de dire comment il ou elle est devenu écrivain, si tant est qu'on puisse même considérer cela comme une décision. Mais c'est pour cela que la question peut être intéressante, parce que c'est une façon de demander à l'écrivain d'écrire la fiction de ses origines, ou de demander au poète de chanter le chant de l'origine du chant, l'une de ses plus anciennes tâches. Le premier poète de langue anglaise, dont on connaît le nom, a appris l'art de la chanson en rêve. Bede dit qu'un dieu est apparu à Kedmon et lui a intimé de chanter le début de toute création. Pardon. Donc, même si je suppose qu'on m'a demandé d'évoquer la façon dont je suis devenu écrivain dans l'idée que mon expérience personnelle pourrait se révéler d'une aide pratique aux étudiants d'ici, j'ai bien peur de n'avoir rien de cet ordre-là à offrir, mais je peux vous dire comment, de mon point de vue actuel, j'ai construit la fiction des origines de mon écriture telle qu'elle est. Dans l'histoire que je me raconte ces derniers temps, je suis devenu poète, ou me suis dit que je pourrais devenir poète, le 28 janvier 1986, à l'âge de 7 ans. Comme la plupart des Américains à l'époque, j'ai un net souvenir d'avoir vu la navette spatiale Challenger se désintégrer en vol 73 secondes après la mise à feu. Ça, c'est un extrait donc de 10h04. Donc, on est effectivement au cœur de cette question que vous pointiez au début de votre intervention, Elisabeth Franck-Dumas. Sauf que justement, les pages suivantes vont nous expliquer comment, en fait, ce souvenir est un faux souvenir, puisque à peu près personne n'a vu en direct, à l'époque, la navette Challenger exploser.
Oui, tout à fait. Le souvenir est un leurre. Et puis, encore plus intéressant, la consolation qui a été offerte au pays.
C'est le discours de Ronald Reagan.
Écrit pour Ronald Reagan. Déjà, ce n'est pas le discours de Reagan, qui le savait. C'était le discours de Peggy Noonan, qui était une speechwriter, comme on dit, extrêmement célèbre. C'est elle qui a écrit le discours de Reagan, avec une phrase que l'auteur trouve absolument magnifique, de ces astronautes qui nous disaient au revoir et échappaient aux liens moroses de la Terre pour toucher le visage de Dieu. Et là, il se rend compte que ces phrases sont extraites d'un poème composé par un aviateur mort très jeune pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il n'est pas au bout de ses surprises puisqu'il se rend compte que ce même poète avait lui-même piqué cette phrase, etc., etc., etc. Et il y a un jeu comme ça de mise en œuvre. Et lui se dit, mais c'est formidable. Au contraire, c'est ça qui est génial dans la poésie. C'est ses emprunts, ses allers-retours. Ça ne compte pas, ce n'est pas grave. Et c'est assez joli. Bon, évidemment, on croise beaucoup de poètes vivants.
Ah, il y a Robert Crilley, mon poète préféré, qui est là
Robert
souvent.
Crilley, Walt Whitman, à qui il règle un peu son compte. Oui. Il y a quelque chose de très whitmanien dans l'interrogation de, voilà, comment puis-je parler au collectif, comment parler au nom du collectif, surtout quand on est un New-Yorkais contemporain totalement névrosé et nombriliste. Et c'est ça qui est également très beau dans le livre. C'est toute cette poésie qui circule. C'est le roman d'un poète. Voilà. Mmh. Je pense que c'est très important de le dire parce que ça s'entend, non seulement dans les phrases, dans la beauté des images, mais dans un certain rapport au monde aussi, à l'immédiateté, qui est magnifique.
Et ça n'empêche pas le livre d'être très souvent très drôle aussi. Philippe Chevillier, un poète qui a beaucoup de sens de l'humour, parce que la façon dont il peut raconter des tas et des tas d'histoires, c'est vraiment ça fait aussi partie des plaisirs de lecture, Philippe.
Oui, ça peut être très caustique quand il parle de ses coopératives bio, de ses dons à Occupy, tout ça. Mais ce qui est bien aussi, c'est que c'est du coup pas un pur esprit ou le nombril, disons, qui est un peu ouvert sur le monde, et ça raconte aussi un peu une nouvelle génération, en tout cas new-yorkaise, qui fréquente encore une fois ces magasins, mais qui s'intéresse aussi, qui est en colère contre la finance, qui conçoit aussi la descendance et d'une autre façon, la filiation d'une autre façon, puisqu'il y a cette scène très drôle où il se masturbe, mais il sait pas très bien finalement ce que va devenir cet enfant, comment il va pouvoir se considérer comme père. Mais par petits points comme ça, on arrive à avoir un portrait de New-Yorkais d'aujourd'hui assez passionnant aussi. Oui. Ça renforce le côté un peu bric-à-brac de ce livre, qui est finalement très riche.
Qui fait une grande place au quinoa, donc bien sûr. Et cette scène aussi, où, plein de bonne conscience, où il accueille quelques heures, un SDF, où il se rend compte qu'il est en fait pour la première fois de sa vie en train de cuisiner pour quelqu'un.
Oui, c'est ça, et qu'il n'a jamais fait ça, c'est un membre d'Occupy. Non mais c'est ça, il pousse assez loin quand même son engagement, bon brooklynois qu'il est, voilà, il accueille des gens d'Occupy, il leur prête la salle de bain, il leur fait à manger, il va emballer des mangues aussi, il y a une scène extraordinaire où il écoute sa voisine, il fait partie d'une coopérative de produits bio, et il faut travailler quelques heures gratuitement dans cette coopérative, et il y a une fille qu'il aime bien qui lui raconte une histoire encore de filiation. C'est un très beau livre sur la mortalité, les parents qu'on choisit. Il y a un couple de poètes qui est d'ailleurs inspiré d'un couple que connaissait bien Ben Lerner. Les enfants qu'on se choisit, il y a le petit Roberto, puis il y a l'enfant qui fabrique dans le gobelet en plastique à l'hôpital. Et c'est vrai que donc cette femme lui raconte une histoire de filiation complètement extraordinaire. Et pendant ce temps-là, il emballe scrupuleusement ses mangues. Et je trouve qu'il est... C'est vrai que c'est un portrait du New-Yorkais contemporain. Voilà, plein de culpabilité, impuissant à agir et qui agit quand même, un peu comme lui, qui ne sait pas vraiment s'il a envie d'écrire ce roman, s'il sait écrire ce roman. De toute façon, ce livre, c'est le livre et le making-of du livre. On a les deux en même temps. Ça marche alors que ça a un côté bricolé, alors qu'en fait, je pense que c'est extrêmement bien réfléchi dans la manière dont il enchaîne les séquences et dont il a composé l'ouvrage.
L'ouvrage qui, d'ailleurs, réserve une dernière surprise dans cette dernière page, puisqu'on a quand même un autre texte qui surgit, extrêmement court, signé cette fois Roberto Ortiz. Je ne sais pas à quel point on peut en parler, ne pas trop dévoiler, mais qui revient sur certains des faits déjà évoqués, notamment ce fameux faux dinosaure qui n'a jamais existé parce qu'on a assemblé des bouts de squelettes qui n'avaient rien à faire ou de fossiles qui n'avaient rien à faire entre eux. Elisabeth von Grimma. Construction encore.
Oui, non, mais, et puis que de mensonges dans l'histoire aussi, que de rêves auxquels on nous a fait croire et qui finalement n'étaient pas vrais, un petit peu comme cette conquête spatiale, voilà, qui n'a
comme
plus rien à voir.
Le brontosaure. Donné.
Mais qui produisent des livres, puisque c'est le premier livre aussi du petit Roberto, donc c'est assez émouvant.
Ouais. Bon, beaucoup de raisons de lire 10h04, que nous venons d'évoquer ici même. C'est le livre de Ben Lerner, publié aux éditions de l'Olivier dans une traduction de Yakuta Alikavazovic.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de Brève Histoire, façon de parler de 7 meurtres de Marlon James. Je dis façon de parler parce que le livre fait 850 pages. Nous évoquerons aussi plus rapidement Tabou de Ferdinand von Schirach chez Gallimard. Et puis L'État où nous sommes, nouvelles du Maine d'Anne Beatty chez Christian Bourgois. Avant tout cela, ouvrons les rideaux qui nous mènent vers le petit salon de Lucille Como. Bonsoir, chère Lucille, et un petit salon comme en prologue de la deuxième grande dispute qui suivra.
Oui, la réflexion qui va suivre s'inspire de deux lectures, un article du Monde intitulé « Rentrée littéraire, une saison africaine » et puis un entretien croisé entre les écrivains Léonora Miano et Alain Mabankou dans le numéro des Inrecuptibles la semaine dernière. Les deux auteurs viennent de publier des ouvrages très différents, qui un roman chez Grasset intitulé « Crépuscule du tourment », qui un essai chez Grasset également « Le monde est mon langage ». Ils sont tous les deux présentés comme des écrivains afropéanistes, entre guillemets, d'où peut-être la rencontre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire afropéaniste? En cherchant, je comprends que le mot est la déformation d'un autre mot forgé récemment, afropéen, et mis en circulation en France il y a quelques années, justement par Léonora Miano, pour décrire, je cite, « ces personnes d'ascendance subsaharienne ou caribéenne et de culture européenne, des individus qui mangent certes des plantains frits, mais dont les particularismes ne sont pas tellement différents de ceux qu'on peut trouver dans les régions de France ». Je trouve assez révélateur cette petite distorsion syntaxique opérée par le journaliste, car dans afropéaniste, il y a le suffixe « ist », ce qui indique une forme de revendication. Or, il s'agit bien de ça, dans l'entretien, faire se converger deux paroles, qui sont les paroles de deux écrivains africains de langue française. J'en viens à l'article du Monde qui, lui, dresse simplement une liste de tous les ouvrages écrits par des auteurs africains ou d'origine africaine. On y trouve des auteurs aussi différents que le jeune Gaël Faye, un auteur de langue arabe, Abdelaziz Baraka Sakine, mais aussi un Martiniquais, Patrick Chamoiseau. Outre le fait que cette liste n'a donc aucune cohérence géographique, est-ce que cette liste a une cohérence littéraire? Est-ce qu'il existe une littérature afropéenne avec des traits de style spécifiques? C'est une petite question, elle est circonstanciée, mais elle creuse d'immenses perplexités, du moins chez moi, à la fois sur des questions de communauté et d'appartenance, mais aussi des questions littéraires. Je ne crois pas que Le Monde aurait dressé, par exemple, une liste de romans écrits par des femmes. Je ne dis pas que c'est mal, je dis simplement que ça n'a pas grand sens. Et de fait, quand on lit l'entretien croisé des Inrocs, on a l'impression qu'Alain Mabankou et Léonora Miano ne parlent pas de la même chose. Dans le chapeau de l'entretien, d'ailleurs, le journaliste précise qu'en 2009, Léonora Miano avait décliné plusieurs demandes d'interview, agacée qu'on lui pose que des questions sur le débat de l'identité nationale et rien sur son roman. Je me demande dans quelle mesure la faire dialoguer avec Alain Mabankou n'est pas, dans une certaine mesure, la cantonner à la même chose.
Oui, c'est ce que je me suis dit en ouvrant le journal. L'entretien ne m'a pas tout à fait détrompé, hein, je dois le dire. Mais cette question-là, alors, puisqu'on parle des États-Unis aujourd'hui, la question des écrivains afro-américains et, ou africains de langue anglaise qui ont pu nourrir, régénérer la littérature américaine, c'est un débat, Elisabeth Franck Dumas, vous qui avez résidé longtemps aux États-Unis, vous savez que c'est un débat voilà, qui est ancien déjà. Ouais,
c'est pas un débat,
c'est un débat. Fait. C'est un fait, c'est un ancien fait. Plutôt, exactement.
Oui, et qui continue, de même en Angleterre, et je pense de même en France aussi, qui est des écrivains afropéens, ben, c'est un fait, enfin, je veux dire, qui s'en réclame ou pas d'ailleurs, et oui, il y a le mot a été créé par Léonora Miano, mais si l'acception c'est des écrivains d'origine, enfin qui sont nés en Afrique, ayant grandi en Afrique et résidant désormais en France, ou d'ascendance africaine, bon alors Carabine elle s'autorise ça, ben oui, de fait il y en a. Est-ce qu'il y a une littérature afropéenne? Je pense qu'on pourrait sûrement trouver des points de rencontre, des thèmes qui reviennent du rapport à la France et du rapport à l'Afrique, de couleur de peau, de mécanismes de domination, d'histoire coloniale. On pourrait tirer énormément de fils. Est-ce qu'il y a une cohérence stylistique? Ils en parlent dans l'entretien en parlant de l'importance de donner à la voix, mais je pense que ça, on peut. Enfin, est-ce que ça vient du fait qu'ils aient été poètes ou pas? Peut-être plus que de leurs origines. On pourrait dire ça aussi d'énormément d'autres écrivains. Donc, oui, je pense qu'on peut le dire, mais comme on peut dire mille choses, comme vous dites, enfin, comme il y a des romans écrits par des femmes, comme il y a des. Est-ce que c'est intéressant de créer cette case, en gros, parce que c'est une case? Je pense que ça a un intérêt dans le sens où ça remplace ce mot vraiment mal commode de francophonie, de littérature francophone, qui est un petit peu, qui est un espèce de sous-entendu désagréable. D'ailleurs, Mabankou l'a dit peut-être pas dans cet entretien, mais je pense dans sa leçon.
Dans le Libé d'aujourd'hui. Aussi.
Dans le Libé d'aujourd'hui. Mmh. Scène lecture, et également, je crois, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, où c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était peut-être pas le cas, mais de fait, on parle de littérature francophone, ça serait comme une espèce de sous-section un peu moins bien que la littérature française à côté. On entend ça.
Bon. Sauf que la littérature française est de la littérature francophone.
Exactement. D'où
et
le
ça,
problème.
On l'oublie toujours.
Mais voilà, donc ce terme de littérature francophone est vraiment.
Malvenu.
Malvenu, mal
choisi.
Donc, pourquoi pas parler de littérature afro-européenne. Après, il est évident qu'il ne faut absolument pas enfermer les écrivains sous cette
étiquette.
Entre
Miano et Mabankou, c'est moins qu'on puisse dire.
Il y a un monde. On pourrait aussi mettre Marie Ndiaye, mais je pense qu'elle ne s'en réclamerait pas. Et elle, c'est pas une étiquette, je dirais, qu'elle revendiquerait. Après, il y a des écrivains qu'on pourrait mettre dedans, mais qui ne sont pas d'Afrique subsaharienne. Je pense, par exemple, pour ce genre de thématique ou ce genre du soin au langage, à Sabri Louata. En tout cas, elle est en plus bien plus grand public que d'autres dont on pourrait parler. Donc bon, voilà, enfin, c'est-à-dire, oui, pourquoi pas utiliser ce terme, je trouve mieux que le terme de francophone. Après, c'est peut-être un terme de... On est entre la recherche universitaire et le marketing. C'est pas toujours très utile. Ça, je trouve que le terme est bien choisi aussi parce qu'il y a un rappel historique. Il y a une histoire qui se décline derrière. Il y a une histoire coloriale. Il y a une histoire de flux. Il y a des migrations. Je trouve que c'est un bon terme. Enfin, c'est bien de rappeler tout ça. On le fait pas assez en France aujourd'hui. Voilà. Après, il faut pas que ça devienne un enfermement.
Philippe Chevillier.
Elisabeth a presque tout dit. J'ai fait un petit parallèle dans ma tête avec quand on parle de la littérature afro-américaine. Et j'ai pensé deux livres qui m'ont frappé dans ces dernières années. Je crois que c'était l'an dernier. Il y avait Ruby de Cynthia Bond, qui est un livre sur l'Amérique et sur les dégâts que peuvent causer l'esclavage sur la communauté noire et sur petites villes, etc. Donc là, on est vraiment dans la littérature afro-américaine. Et puis Dino Mangestu avec Tous nos noms, qui lui est d'ailleurs dans tous ses livres fait un va-et-vient entre l'Afrique et l'Amérique. Donc déjà, c'est pas tout à fait la même littérature afro-américaine, mais là c'est effectivement, et on peut retrouver ça dans la littérature donc dite francophone, où on peut avoir des livres qui sont qui parlent beaucoup de l'Afrique coloniale ou de l'Afrique d'aujourd'hui, vue par quelqu'un qui s'exprime en français ou dans une autre langue européenne, et puis des gens qui sont plus ancrés dans la vie de la France parce qu'ils y vivent depuis longtemps. Donc c'est vrai que l'étiquette est un peu difficile mais pourquoi pas. Le côté marketing m'embêterait, et puis le côté un peu aussi normatif, case, encore faire des sous-ensembles, ça, au moment où justement les autres auteurs africains comme les autres sont dans une littérature monde plutôt. Et simplement, alors c'est vrai que moi, je sais aussi que dans mes souvenirs de lecture, quand je me suis mis à lire un peu de littérature caribéenne par exemple, je me suis dit tout d'un coup que cette littérature française là me plaisait, enfin francophone et française me plaisait beaucoup, parce que on retrouvait une énergie, un art du conte, une fantaisie, une façon de parler aux morts, toute cette culture caraïbe qui peut être aussi une culture africaine qu'on a perdu parfois dans nos romans ou dans nos autofictions un peu tristes parfois. Et donc si ces racines africaines peuvent apporter cet art du conte, cette énergie, cette écriture, alors peut-être qu'on peut dire qu'il y a effectivement une caractéristique à cette littérature afro-européenne. Mais franchement, je dis ça avec beaucoup de prudence parce que...
Lucie Comeau ?
C'est un petit peu ce qu'avait dit Antoine Compagnon en présentant justement Alain Mabankou pour sa leçon au Collège de France, qu'il apportait quelque chose, un regard entre guillemets naïf, quelque chose de l'art du conte. Moi, personnellement, je trouve ça assez choquant.
Moi, j'ai pas dit naïf, moi.
Non, j'entends bien.
Ça avait parlé de...
Et l'art du conte, pour moi, c'est...
Au magique.
Moi, l'art du conte et le fantastique et le magie, le rapport, c'est pour moi, c'est une des composantes que j'aime dans la littérature.
On a Marcel Aimé, Jean Giono et quelques autres qui ont cette tradition-là.
Le terme de Mabankou de littérature monde, je crois qu'il l'emploie aujourd'hui dans l'IB également, c'est très bien. Et d'ailleurs, on peut penser, on voit à peu près ce qu'il évoque. Ça ne veut pas du tout dire la littérature du monde entier, toutes les littératures du monde. C'est plus une littérature en prise avec le monde, en prise avec le contemporain. Et on voit tout à fait pourquoi, par exemple, certains auteurs français n'y participeraient pas du tout à cette littérature monde-là. Or, hélas, je pense que c'est un terme aussi qui rappelle d'où on parle. Et c'est pas mal parfois. Bon, on va en parler là quand on va, enfin, dans la suite de l'émission, quand on parlera de Marlon James. Mais j'y ai pensé en terminant le livre fort tard hier soir, Philippe Chevillier. Il y a un personnage de femme jamaïcaine à New York qui à un moment visite un salon et qui dit de manière très drôle, enfin la manière dont c'est dit est beaucoup plus drôle ce que je vais dire là, mais elle regarde le salon, elle trouve ça étouffant, tout ce mobilier de l'époque de l'esclavage. Bon, et ben Elle parle d'un certain endroit, voilà, d'où ne parle pas, et c'est drôle, et c'est bien, et on aimerait penser d'ailleurs qu'un écrivain français serait capable de, je dirais français, de l'Hexagone, qui n'a pas d'ascendance africaine, serait capable d'avoir cette image-là. J'en suis pas sûre. Donc, C'est un terme voilà qui a son utilité, mais le côté revendication est presque un enfermement. Donc
Lucille, pas mieux?
Non.
Non, mais c'est vrai que moi c'est ce que j'ai entendu aussi chez nos camarades de France Inter quand Anna Bancou parlait de sa propre écriture en parlant de nous sommes gays, nous sommes joyeux, nous aimons danser, je me disais si c'était un écrivain blanc qui parlait de quelqu'un d'origine africaine comme ça. Que dirait-on sur lui? Il y a quand même quelque chose là dans le cas d'Alain Mabankou où on a l'impression qu'il se met dans le rôle du bon noir. Je dis ça avec beaucoup de guillemets, mais quand même c'est quand même problématique. Quand vous citiez les propos d'Antoine Compagnon pour qu'il ait le plus grand respect, ça va être parler de la naïveté de ce goût du conte. Voilà, on est quand même sur des terrains qui sont pour moi très très glissants quand même. Oui. Lucille.
Oui, c'est étonnant parce que Léonora Miano a aussi signé une tribune là très récemment dans Libération sur la mort d'Adama Traoré qui est mort sous les corps des gendarmes venus l'arrêter. Et elle parle justement de ça, de l'intégration des stéréotypes de la société blanche qu'ont intégré peut-être plus les hommes noirs d'ailleurs que les femmes noires. Ça, c'est intéressant.
Philippe Chevillier.
Alors maintenant, je pense qu'il y a une nécessité de tordre le bâton dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où certains considéreraient que la littérature francophone d'origine africaine serait inférieure, et ça arrive à la littérature, il faut justement essayer de mettre en avant ce qu'on considère être ses atouts. Et en même temps, je comprends aussi, on peut pas dire que tout est pareil, c'est-à-dire qu'il y a quand même des caractéristiques qui viennent d'une histoire, l'histoire africaine, de l'histoire française, qui font que c'est pas tout à fait, on peut considérer que les livres sont pas écrits quand même de tout à fait de la même façon. Moi, je vous dis, j'ai plutôt l'impression que dans les livres que j'ai pu lire en langue française, souvent c'est des livres d'origine africaine ou caraïbe qui m'ont plus touché. Et je pense, moi j'ai un bouquin, c'était Caraïbes, c'était Stephen Schwarzbart, Pluie et vent sur Télumé Miracle, qui m'a complètement emballé, qui reste pour moi un des livres les plus beaux que j'ai lus. Bon voilà, c'est un livre caraïbe. Donc si on le prend pour positiver, non pas pour dire mais c'est pas mal, vous allez voir, vous allez découvrir, c'est gay, il y a des chansons. Non, c'est plus que ça, c'est une littérature d'une richesse infinie, et on est peut-être obligé d'utiliser ces arguties pour pouvoir l'imposer à des gens qui iraient pas chercher, qui iraient pas lire simplement un livre d'origine africaine.
C'est pour ça que je pense encore une fois que le concept est utile. Je pense que c'est un concept utile, une question intéressante et un entretien raté sur cette question intéressante. Voilà.
Bon, on peut dire ça.
Sur cette parole-là, fermons les portes du petit salon. Et passons à vos coups de cœur respectifs au mi-temps de cette dispute littéraire. Elisabeth Franck-Dumas, vous nous ramenez du côté des États-Unis avec Anne Beattie.
Mais oui, qui sera présente au Festival America à Vincennes, tout comme Ben Lerner. Je me suis dit que
absolument.
C'était bon.
Et Marlon James.
Et Marlon James, en plus du fait que j'aime énormément Anne Beattie, c'était maintenant ou jamais. Je m'étonne toujours d'ailleurs qu'elle... Enfin, j'ai l'impression... Est-ce que vous connaissez? Oui.
Je connaissais.
Elle n'est pas très, c'est drôle parce qu'en France, elle ne jouit pas d'une énorme notoriété.
On avait parlé de son précédent livre traduit en français, me semble-t-il, dans l'émission.
Hélas, les nouvelles New Yorker, qui je trouve étaient à la fois moins bien que les précédents et moins bien que celui-ci. Aux États-Unis, elle est hyper connue. On a parlé à son endroit de Beattie Generation. Bon, évidemment, il y a le
jeu de mots.
Il y a le jeu de mots, mais on entendait bien là qu'elle parlait du contemporain, qu'elle savait parler de sa génération, de l'ère du temps et de la manière dont il agit sur les familles, les relations entre les couples. C'était un mélange d'un minimalisme à la Carver et de l'ultra-moderne qui faisait sa marque de fabrique. Et je l'ai vraiment retrouvé avec plaisir dans l'état où nous sommes, Nouvelle du Maine. Bon, il s'agit pas tant d'un état géographique, même si la plupart de ces nouvelles se déroulent dans le Maine, que d'un état psychique. Et on retrouve cette capacité à capter l'air du temps. Elle s'est résumée des vies entières en trois phrases, voilà, comme le faisait magistralement Carver. Des petits détails, toujours avec ces irruptions du contemporain. Par exemple, il y a un personnage dans une nouvelle qui retrouve sur Airbnb, ce site de location d'appartements temporaires, qui retrouve des photos de son ancien appartement à New York. Elle est désormais médecin dans le Maine. Et elle voit l'appartement et ça donne une dérive mentale jusqu'à sa jeunesse, cette ville qui n'existe plus, car le Chelsea des années 70 n'existe plus, c'est devenu bien autre chose, un appartement qu'on loue dans un quartier branché sur Airbnb. Et on voit tout défiler en quelques pages, sa jeunesse, la ville qui n'est plus, les regrets qu'elle a, l'histoire qu'elle avait eu eu ou qu'elle aurait pu avoir avec son colocataire. C'est très beau. Une autre nouvelle extrêmement drôle sur une adolescente qui passe ses vacances chez un oncle et une tante et qui doit écrire, je cite, un putain de devoir de vacances, inspiré par le réalisme magique et qui s'en arrache les cheveux. C'est très, très drôle. C'est une trilogie parce qu'on la retrouve à deux autres endroits dans le recueil. Où une femme sortant de chez elle un matin très pressée qui se met bille en tête de secourir un oisillon qui est en train de se noyer dans la poubelle. Et également là, en deux pages, il y a tous les atermoiements de la femme contemporaine, la dislocation de la famille, le fait qu'elle ne sache plus cuisiner. Enfin, c'est vraiment brillant, c'est drôle, c'est fin, c'est délicat. Voilà, lisez Anne Beattie.
Anne Beattie, Nouvelle du Maine, l'état où nous sommes, c'est le titre. C'est une traduction d'Anne Rabinovitch pour l'édition Christian Bourgois. Quant à votre choix, Philippe Chevillier, on a beaucoup répété ce lancement. Alors, il est comment le nouveau Chirac?
Eh bien, il est pas mal. Il est en... Oui, mais c'était de bonnes nouvelles de Chirac, de Ferdinand von Chirac. Alors, Ferdinand von Chirac, c'est un auteur allemand qui a une histoire... Il est avocat depuis 1994. Il a son grand-père était le patron des jeunesses hitlériennes. Ça crée quand même une lourde ascendance. Et il a défendu des affaires des affaires criminelles très dures, très 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 importantes. Et puis s'est mis à écrire des nouvelles. Alors en août 2009, elles sont parues en français d'ailleurs, je crois, Crime. Et ensuite un an plus tard, Coupable. Alors ça a été un triomphe. Ces nouvelles ont été adaptées Crime en série télé. Et je crois que les autres doivent faire un film. Enfin, en Allemagne, c'est un peu une star. Et moi, j'avais découvert Chirac avec l'affaire Coligny, qui racontait l'histoire d'un industriel allemand, ancien nazi, assassiné. Il faut défendre le criminel, sauf que le criminel se suicide. Et à travers cette histoire, en fait, c'est le procès de l'Allemagne qui a caché un petit peu toute l'histoire de ces anciens nazis, la prescription qui empêche vraiment d'aller jusqu'au bout des poursuites. Donc son livre a fait vraiment grand bruit. Donc il y avait un petit côté jeune Grisham allemand, c'était bien fait, c'était bien écrit, mais voilà. Là, Tabou, c'est donc son nouveau livre, et à mon avis plus intéressant parce que ça se veut vraiment nettement plus littéraire, ça part dans plusieurs directions, c'est un peu plus énigmatique. Et donc ça part presque comme un roman romanesque ou gothique, romantique, avec l'histoire d'un jeune garçon qui a un monde de couleurs qui est différent des couleurs que l'on voit. Et il habite dans un château, et ce château, il va être vendu, et il va devenir photographe. Et en étant photographe, il va être passionné par les nus de femmes et des femmes qu'il veut sans phare. Et donc il fait des mises en scène assez incroyables, ça devient une star. Et il y a à un moment donné, il est accusé d'un meurtre, sauf qu'il n'y a qu'on ne trouve pas, on ne sait pas qui est la victime, on ne retrouve pas la victime. Il est accusé, il prend un avocat. Et là, cet avocat, donc, va défendre, et un peu le fil philosophique du livre, c'est la différence entre le réel et la vérité, donc deux notions elles-mêmes très ambiguës. On est un peu là dans le policier, on a presque une énigme à la John Dixon Carr, qui va être plus ou moins résolue. Mais tout d'un coup, on revient donc aux premières aspirations de Chirac, qui sont la défense des opprimés, la défense des faibles, où il dit que l'avocat doit absolument avoir toute liberté, que c'est le seul garant, que la justice est la seule garante de la défense des faibles, et donc que critiquant la police qui utilise des méthodes qui sont parfois douteuses. Et alors le livre se termine là-dessus, mais en même temps en laissant plein de portes ouvertes, donc c'est assez étrange, c'est dans un style assez plutôt bien écrit, très précis, très court, très bref. C'est assez dérangeant et en même temps assez attachant. Donc je vous recommande ce Chirac.
Bon, Tabou, dernier Chirac, Ferdinand von Chirac, c'est chez Gallimard et c'est dans une traduction d'Olivier Lelay.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et nous poursuivons cette dispute consacrée comme chaque vendredi soir à la littérature avec un pavé qui nous vient de Jamaïque. Brève histoire de 7 meurtres de Marlon James, publié chez Albin Michel dans une traduction de Valérie Malfoy. La Jamaïque donc, mais aussi, on verra, les États-Unis importants dans ce récit, mais aussi lectorat important pour Marlon James, dont les deux premiers romans ont été des succès là-bas et qui nous arriveront un peu plus tard chez Albin Michel. Celui-ci, en tout cas, Brève histoire de 7 meurtres, a remporté le prestigieux Man Booker Prize. C'est une première pour un écrivain jamaïcain. Jamaïque, 3 décembre 76, c'est presque le point de départ de l'action chez Bob Marley. Même si l'on aura auparavant entendu la voix d'un mort, fait un passage par le 2 décembre 76 et puis découvert quantité de personnages, c'est un prologue, bon, qui fait à peine plus de 150 pages, mais pour un livre qui en fait plus de 800, c'était assez naturel.
Feeling down, this feeling wouldn't leave me alone. Then I became a one that said, a dread, fly now to dread and smile.
In Jamaica,
want you to smile.
In Jamaica, you're
getting together right now.
In Jamaica,
get things together right now.
In Jamaica, you're
just such a
simple town. Roots people.
Said I see you're having fun, rocking to the roots man rocker. Oh, island in the sun, oh, island
in Jamaica.
Want you to get together
in Jamaica, yo.
Get this together right
in
now,
Jamaica.
Get this together right
in
now,
Jamaica, yo.
Help the children, help them right. Oh Lord, help them to sight.
That's the way. Evil spell.
Throw some water
in the
well, 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 well.
Ça fait trop longtemps que j'ai pas écouté de Bob Marley. J'ai tellement écouté de reggae, plus jeune, évidemment. Et de ska aussi. De ska, il est un peu question, mais ça précède historiquement. Bon, on va pas faire une émission musique, quoi qu'on pourrait. Et bien sûr, il y a le chanteur. C'est pas Bob Marley dans le livre de Marlon James, c'est le chanteur. Il y a beaucoup de jeux d'ailleurs avec les noms, hein, parce que les noms de son personnage sont parfois des vrais noms, mais d'autres gens, ou ceux qui sont pas nommés en nom des vrais. Enfin bref, tout ça est très riche, très complet, mais pour faire une histoire de la Jamaïque sur une trentaine d'années ou une vingtaine d'années, il fallait bien ça. Ça a enthousiasmé votre été, Philippe Chevillier, sur Marlon James.
Oui, alors je l'ai pas lu en une nuit comme Elisabeth.
Non, je l'ai terminé hier soir. Personne ne va croire que j'ai lu ce livre en une nuit.
Non, personne.
Mais donc 850 pages, 76 personnages très exactement, je crois.
On a la liste au début. C'est déprimant d'avoir ça. Avec
oui, mais c'est très pratique pour s'y retrouver ensuite. Ouais. C'est vraiment un vadémécum parce qu'on les retrouve. Ensuite, il y a 12 voix. Parce que il y a une femme qui a plusieurs identités en fait dans le livre, donc je crois que c'est une douzaine de voix qui vont nous raconter cette histoire de la Jamaïque et de l'Amérique croisée, et qui a pour point d'ancrage ce jour de décembre 76 où Bob Marley fut agressé et faillit mourir d'ailleurs en prenant des et il a été sauvé en expirant plutôt qu'en inspirant. Et du coup, il va pouvoir faire ce fameux concert pour la paix qui précède les élections et qui va en faire un dieu vivant à ce moment-là et qui va un peu lancer aussi toute la mythique Rasta qui est déjà assez forte à l'époque, mais qui va la décupler. Alors, on a dans ce livre, ce qui est assez formidable, une histoire, comme vous disiez, de 20 à 30 ans de la Jamaïque, croisée avec l'Amérique. Et sans que ça soit manichéen, on se plonge dedans, on a vraiment une vision un peu comme ça éclatée, et en même temps, il y a une morale qui est assez fascinante, qui est assez passionnante, parce qu'on voit bien qu'à travers la lutte qu'il peut y avoir entre les ghettos et les différents partis, il y a un parti qui a eu le malheur donc de se déclarer socialiste, et la CIA prend très très mal et se dit ça va être comme Cuba, et du coup elle va mettre une telle zizanie que d'une certaine façon elle va favoriser ces bagarres entre les gangs, ces gangs qui eux vont faire affaire avec le cartel de Medellin et vont ensuite inonder les villes américaines avec le crack. Donc c'est encore un grand succès de la CIA.
Encore une brillante intervention de la CIA. Ouais.
Alors ça c'est la trame, mais c'est vrai que c'est tout conjugue vers ça, avec un des personnages qui est un reporter de Rolling Stone et qui finalement a tous les éléments, mais comme le dit Marlon James même dans les interviews, finalement il se rend pas compte de tout l'or qu'il a et puis il arrive pas trop à s'en démêler, mais il a tout compris. Alors donc il y a cette histoire, parce que j'aime bien qu'un livre me raconte comme ça une histoire formidable et arrive en plus à le raconter de façon aussi qui me paraît aussi vraie, aussi complète. Mais c'est vrai qu'il y a une deuxième dimension, c'est la dimension littéraire. Et on a plein de livres polyphoniques. roman choral, on commence à en avoir l'habitude. Et là, je trouve que vraiment, ça fonctionne parce que, d'une part, les personnages qui parlent, alors ça peut être des porte-flingues, des caïds, donc ce journaliste, pas Bob Marley, justement, non. Qui est toujours entouré de mystères, enfin, même si on l'approche avec les tueurs.
Périphériquement, oui.
On a même un politicien mort, on a ces jeunes de 14-15 ans qui commencent à se lancer dans les gangs. Et du coup, pour chaque personnage, sans que ça paraisse, sans que ça paraisse téléphoné, convenu, il y a un style différent. Et le style de journaliste est un peu un style de nouveau journalisme à l'américaine. Le style du gamin de 14 ans, c'est une espèce de poésie sous crack ou sous cocaïne qui est absolument, qui est très belle à lire. Alors, d'ailleurs, là, pour le coup, on peut rendre hommage à Valérie Malfoy, parce que la traduction, c'était quand même pas très facile. Et tout ça dessine des personnages assez extraordinaires. Et alors, le dernier élément, pour les lecteurs qui se disent, bon, quand même 850 pages, c'est que, au bout du compte, même si le début est toujours un petit peu difficile dans ce genre de livre, c'est une lecture plaisante. C'est-à-dire qu'on arrive jusqu'au bout. Et à travers ces personnages auxquels on s'attache, et je pense notamment au personnage du petit jeune, qui est terrifiant, le Bam Bam. Et puis au personnage de la femme aussi, qui prend plusieurs identités, mais peut-être qu'on en reparlera.
On va en reparler, mais d'abord, on va savoir un souvenir tout frais de la fin de cette lecture, Elisabeth Franck Dumas.
Je précise que je l'ai lu en 10 jours, pas en une nuit.
Mais enfin, j'ai terminé hier
soir, fort tard. Je suis d'accord avec Philippe Chevillier. Alors, c'est vrai que la liste des personnages, là, dans le prologue, on se dit, il y a un petit côté décourageant, je crois que j'aurais peut-être mis à la fin.
Oui, moi aussi. Il y a un glossaire à la fin.
Le premier chapitre avec le mort qui parle. Alors, on se dit, oula, voilà que je m'embarque pour 800 pages de réalisme magique.
Les morts parlent, là.
Voilà, les morts nous parlent. Bon, en fait, il parle assez peu, ce politicien mort. Et ses autres interventions, est-ce que c'est parce que finalement, on connaît le reste, sont un peu mieux. Mais bon, alors, comme entrée en matière, c'est un petit peu difficile. Il faut passer outre ces quelques pages, parce que c'est vrai qu'après, c'est génial, que c'est extrêmement incarné, qu'il y a une maîtrise du rythme, surtout. C'est-à-dire qu'il y a une maîtrise du tempo sur l'ensemble du livre et à l'échelle de chaque chapitre également. C'est pas trop long. À chaque fois, on ne s'ennuie pas. On plonge dans ces histoires différentes qui racontent toute une facette du puzzle et de cette époque en Jamaïque. De manière assez reconnaissable, vous l'avez dit. Et, c'est très maîtrisé. Il faut en effet saluer le travail du traducteur parce qu'elle a dû s'arracher les cheveux. Il y a une rupture au milieu du livre, en fait. Et je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'il va arriver à se sortir de là puisque on arrive à l'assassinat, enfin à la tentative d'assassinat de Bob Marley, et on se dit, et maintenant, où allons-nous? Et nous ne sommes que même pas à la moitié du livre, ou à la moitié du livre. Et puis, on bifurque vers cette inondation de crack dans les villes américaines. Et il arrive, le tour de force, il arrive à faire tout ça, sans qu'on ait l'impression que ce soit simplement un exercice hyper ambitieux et finalement assez froid, parce que c'est vrai que les romans polyphoniques, les gros thèmes, enfin, il y a plein d'écueils, il y avait plein de pièges comme ça dans lesquels il n'est pas tombé. Et je trouve que c'est remarquable. Il y a un travail sur le langage. Alors, vous avez raison, non seulement on reconnaît tellement bien la manière de parler de chaque personnage qu'à la fin, on n'a plus besoin d'avoir leur nom en début de chapitre pour savoir qui parle. Mais en plus de ça, il y a un travail vraiment sur le langage, même les personnages parlent entre eux de manière de parler, du langage en tant qu'instrument de domination, du bien parler, du mal parler, du patois. Alors, il y a sûrement quand même une petite déperdition malgré l'excellence de la traduction, mais qui vient alimenter cette histoire, qui n'est pas une histoire coloniale, mais enfin de domination américaine sur la Jamaïque, qui est géniale, qui passe par là, et notamment par ce personnage féminin qui changera au cours du livre plusieurs fois d'identité et qui est, je trouve, de tous vraiment le plus réussi, alors que c'est le genre de livre de genre, justement, où les personnages féminins ne sont pas toujours très bien servis.
Oui, et d'ailleurs, dans l'interview de Télérama, je crois qu'il déclarait qu'on lui avait dit au début qu'il ne savait vraiment pas bien parler des femmes et tout ça, donc je pense qu'il a fait un effort pour le livre.
Elle est très très bien.
Bon, vous me donnez envie de continuer parce que, n'ayant lu le livre, entre les mains que lundi soir, j'en ai lu à peine un tout petit quart, donc ça m'encourage davantage à continuer parce que j'ai pas ressenti tout à fait ce que vous dites là. Alors, vous avez dit aussi qu'il fallait passer, j'ai l'impression que plus on entre dans le livre et plus on y prend du plaisir. C'est bien ça que vous dites l'un et l'autre.
Et puis il y a un passage dont on n'a pas parlé qui est aussi très important. C'est le moment où, après justement le concert de Bob Marley ressuscité, on a vraiment la mystique rasta fait que les gangs essaient de se rencontrer, de faire la paix des braves. Donc à un moment, je pense que toute la mystique qu'on a eue à un moment donné les Rastaman Vibration et tout ça, c'était lié aussi à cet espoir que la Jamaïque tout d'un coup allait se réconcilier et que même les gangs allaient devenir pacifistes. Et puis évidemment ça va tourner court à cause de la CIA, mais pas seulement, et parce qu'il y a des caïds qui viennent derrière. Mais du coup ça embrasse pas mal de problèmes de la société, de cette époque de la guerre froide, mais aussi de notre société moderne et de ce monde tourmenté dont nous accouchons aujourd'hui. Enfin, c'est passionnant à ce niveau-là.
Oui, tout à fait. Bon, c'est pas qu'un livre documentaire, c'est vraiment c'est vraiment une belle œuvre littéraire, comme vous dites. Il faut persévérer, puis on rentre dedans, et puis on s'attache incroyablement à ces personnages. On est ces petits voyous là qui ultra violents. On est triste lorsqu'ils disparaissent des pages pour certains d'entre eux, en tout cas. Et puis c'est très drôle aussi. Il y a un sens de la répartie et de la vanne, notamment. Enfin, je pense à certains personnages qui sont vraiment extrêmement drôles, qui s'envoient des trucs. Pareil, ça, c'est pas toujours réussi dans un polar, ce genre de petites. Et là, moi, il y a quelques moments où j'ai vraiment éclaté de rire.
Les agents de la CIA sont plutôt ridicules, donc c'est bien, mais sans que ça soit d'ailleurs appuyé. Et puis, il y a aussi, ce que vous disiez sur le langage des tueurs, il est terrible, parce qu'ils sont, on comprend leur charisme en même temps, on voit d'où ça vient, de cette violence, et ceux qui essayent d'utiliser le langage, ceux qui n'y arrivent pas, mais qui utilisent d'autres moyens, c'est quand même assez étonnant aussi.
Oui. Et le personnage de Josie Wales, qui parle espagnol, qui est
hors la loi.
Hors la loi, mais qui est extrêmement éduqué et qui ne le montre pas parce qu'il dit que tout le monde le prend pour un noir idiot et il s'en accommode très bien. Enfin, il y a le langage comme instrument de domination et de contrôle. Ça, c'est maîtrisé du début jusqu'à la fin. Également par le personnage féminin, à qui les Jamaïcains reprochent de parler trop comme une blanche. Enfin, ça traverse tout le livre et c'est très bien vu, c'est très bien fait.
Alors, parce qu'elle, en plus, elle a le problème d'être femme en Jamaïque, puis femme en Amérique, et Jamaïcaine en Amérique. Donc, c'est très bien, très bien raconté et très bien écrit.
Alors, ça va devenir une série. C'est ce que vous alliez dire?
Non, pas du tout, HBO. Mais il y a une série qui...
C'est vrai qu'on aimerait la musique qui va avec.
Oui. Enfin, d'ailleurs, j'ai lu dans un des entretiens donné par Marlon James que dans l'édition britannique, il y avait la playlist du roman. Ah. Ce serait quand même bien que les éditeurs français fassent la même chose, parce que la bande-son, elle est importante de ce livre-là.
Surtout qu'en plus, il faut reconnaître, mais les personnages passent leur temps à citer des bribes, des bouts de chansons, mais c'est dans leur flux de conscience, donc c'est pas toujours signalé. Alors quand on connaît bien les chansons de Bob Marley, on reconnaît, on voit à peu près. Mais c'est vrai que une playlist, ça aurait été...
Peut-être que je confonds avec Ben Lerner en même temps, quand je suis en train de dire ça. Je me demande si c'est pas Ben Lerner qui a dit ça.
Non, vous avez raison, non,
c'est Marlon James. Ouais. Bon. L'autre chose que j'ai lue qui m'intrigue un peu plus, j'avoue, parce que ce que vous dites là irait plutôt dans le sens d'une... réécriture du réel. Marlon James dit qu'il est parti sans plan dans ce livre, que il est pensé faire un roman court et que c'est l'histoire qui l'a poussé à développer et qu'il savait pas du tout où il allait. Moi, pour ce que j'en ai lu, puis après j'ai fait des petites ponctions à travers le livre, je me suis dit quand même c'est extrêmement construit, extrêmement travaillé, très ordonné. On doit le croire ou pas, Marlon James, quand il dit qu'il a écrit au fil de la plume?
Il faut lire les remerciements à la fin. Il explique comment il a écrit le livre, qu'il avait énormément de mal, qu'il n'arrivait pas justement à trouver par quel bout attraper ce livre, jusqu'à ce que, lors d'un dîner en ville, je cite, Rachel Perlmutter, qu'on ne connaît pas, lui a déclaré « Et si ce n'était pas l'histoire d'un seul personnage ? Et quand avais-je relu pour la dernière fois, tandis que j'agonise, le livre de Faulkner ?»
Ah oui.
Voilà. Et donc, ça y est. C'est là qu'il dit « J'avais un roman et il était devant moi depuis le début. » Bon, et il cite ensuite toutes les personnes qui l'ont aidé à écrire le livre, tous les gens qui ont fait des recherches. Et
là, il y a combien de pages ?
Au moins... J'en compte au moins 4 ou 5, puis il y a les relecteurs, et puis il y a... Non, c'est bien ça.
Mais je pense qu'il est pendant une heure, et il a peut-être eu l'idée de faire un... de pas le préparer, et puis après, il s'est rendu compte que ça marchait pas.
Non. Réécriture quand même. Bon, comme on a un petit peu de temps, moi j'aimerais bien écouter un petit peu de Bob Marley encore. On va le faire pour terminer cette émission.
Dont le portrait est très beau dans le livre, en creux. En creux.
C'est ça qui est génial. Il a eu bien raison d'ailleurs. Je pense que c'est une... Encore un autre écueil évité.
Brève histoire de sept meurtres de Marlon James, publié donc chez Albin Michel dans une traduction de Valérie Malfoy. Pour conclure cette émission, la France est en haleine depuis hier au soir et depuis la question du jeu de la dispute. Lucille Como, il est temps de mettre fin au suspense en en donnant la réponse. Rappel sur la question.
Comment s'appellent les rodéos traditionnels du nord du Brésil?
Et la réponse?
Les vaqueiradas.
Et ben voilà, tout le monde respire. Mais Philippe en a fait dans sa jeunesse. Mais enfin, on ne peut pas tout raconter.
J'ai
ici.
Des photos.
On va gagner ce soir les DVD du documentaire de Marie Drucker, Détenu, un documentaire, un DVD distribué par Z. Quelle est la question?
Marie Drucker joue dans la série Le Bureau des légendes créée par Éric Rochon, qui met en scène une antenne ultra secrète des services de renseignement. Elle est un des personnages clés. Quel est son métier?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Elisabeth Franck-Dumas, Philippe Chevillier et Lucille Como, d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou podcaster nos émissions, un site sur lequel vous pouvez aussi nous écrire. La dispute est possible grâce à Lucille Como, Daniel Finot, Virginie, le duo Josué Morel et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Jean-Louis Delonque, réalisation Daniel Finot. Je vous retrouve lundi à 21h pour une dispute consacrée au spectacle vivant en compagnie de Marie-Josée Sirac et René Solis. À notre sommaire, les frères Karamazov, d'après Dostoïevski, mise en scène Franck Castorf à la MC 93, et puis Réparer les vivants, d'après Maïlis de Kerangal, adaptation, interprétation et mise en scène Emmanuel Noblet, c'est au théâtre du Rond-Point, donc beaucoup de littérature encore pour lundi soir. Nous passerons, Lucille Como passera un coup de fil à Jean-Paul Angot, directeur de la MCD de Grenoble et président de l'Association des scènes nationales. Tout ça, c'est pour lundi. D'ici là, vos programmes se poursuivent sur France Culture. À 22h15, les discussions du soir. Avant cela, dans quelques instants, le journal de la rédaction.